Salut, c'est toujours moi.
Toi qui ? Bah moi, Maud.
Ah ouais.
Bienvenue dans la saison 2 du podcast La grossesse en vrai. Au programme, toujours plein de témoignages intéressants, des femmes cool, des hommes cool, des sujets variés, le tout rythmé par ma voix de velours.
Ça va les filles ? Bah c'est vrai qu'elle a une belle voix. Hein.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Et mon humour fantastique.
Ouais, t'as raison, elle se la pète un peu.
Ah, bah ouais, je t'avais dit. Hein. Oh, et surtout, toujours toute la vérité, rien que la vérité à propos de la grossesse. Vous êtes prêts ?
Ouais !
Bruitage de la foule en délire.
Wouhou ! C'est parti ! La grossesse et la sexualité. Voilà un sujet intéressant. Intéressant, mais complexe. Il n'est pas toujours aisé d'avoir une vie sexuelle bien équilibrée et satisfaisante en temps normal. Mais alors, quand en plus il y a une grossesse en cours, ça peut se compliquer un peu.
Ah, tu crois ? C'est pas comme si la grossesse compliquait déjà tout.
La grossesse reste un moment à part de la vie d'une femme, et on en parle beaucoup dans ce podcast, une période plutôt imprévisible. J'aimerais vous dire que tout va couler de source, que vous allez être en phase avec votre partenaire et que vous allez vivre vos best parties de jambes en l'air pendant 9 mois, galvanisés par la joie d'attendre un enfant.
Dis-le.
Mais vous savez que je ne mens jamais.
Putain.
Pour une poignée d'entre vous, tout va bien se passer. Mais pour toutes les autres, ça va être plutôt, comment dire, déroutant. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous fabriquez un petit humain dans votre corps. Une grande partie de votre énergie, de vos ressources physiques et mentales, y est consacrée. Pour couronner le tout, vous baignez dans les hormones et ne maîtrisez plus grand-chose à vos émotions et à vos envies.
C'est faux ! N'importe quoi !
L'expérience de la sexualité pendant la grossesse est évidemment unique et différente pour chacune d'entre vous. Mais il semblerait qu'un schéma plutôt classique se répète la plupart du temps. Premier trimestre, on est souvent épuisé. Inquiète, nauséeuse, bouleversée par des tas de changements qui s'opèrent en nous. On n'a pas envie de sexe. On n'a même pas le temps d'y penser. Le c'est le quoi ?
Du sexe ? Non mais tu rigoles. Je préférais encore me frotter le corps avec du papier de verre.
Deuxième trimestre, la résurrection. Adios, désagréments bien relous. On peut revivre un peu.
I'm back, bitches !
Et pourquoi pas se faire plaisir sous la couette ? Ou même à n'importe quel endroit d'ailleurs.
Oui, soyons inventifs, ça fait 3 mois qu'on n'a pas baisé.
Il paraît que c'est le golden age de la grossesse, le moment pour kiffer sous tous ses aspects.
Vite chérie, on a une fenêtre sexe de quelques semaines, profitons-en.
Enjoy! Et enfin, le troisième trimestre. Ça commence à tirer et à peser de partout là. C'est pas qu'on n'a plus envie, enfin peut-être que si. Mais surtout, ça devient dur de composer avec ce corps qui abrite un petit colloque de plus en plus imposant.
Le gosse fait la taille d'une pastèque. Non sérieux, je vais accoucher d'un bébé ou d'un stade de foot ?
Par ailleurs, il semblerait que certains partenaires soient également un peu refroidis par la taille du bordel et le bébé à l'intérieur.
Quel culot.
Il y en a même qui ont peur de nous faire mal. Ou pire, peur de toucher leur précieuse progéniture lors de la pénétration. Bah oui, vous savez, avec leur sexe géant.
Voilà, c'est même plus du culot, c'est du délire.
Bon, après, encore une fois, ça reste des grandes lignes. Des tas de facteurs propres à chacune jouent sur la sexualité. Comme en temps normal, finalement. Certaines seront en fire plus que d'ordinaire, laissant leur partenaire épuisé, médusé, mais heureux.
Comment ça, t'es déjà fatiguée ?
D'autres vivront les montagnes russes. Et d'autres seront absolument hermétiques au moindre contact physique.
Ne me touche pas ! Regarde ce que ça a donné la dernière fois. Tu voudrais que je sois encore plus enceinte, peut-être ?
C'est un sujet dont il n'est pas facile de parler, ni au sein de son couple, ni aux professionnels qui nous suivent. Pourtant, on s'en pose des questions, hein ? Alors, pour savoir comment vivre au mieux notre sexualité pendant la grossesse, j'ai posé plein de questions à Camille Bataillon, sexologue et autrice de l'ouvrage « Réinventer sa vie intime après bébé ».
Ah bah merci. Ouf.
Bonjour Camille, merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec moi aujourd'hui, ça me fait très plaisir.
Coucou Maud, bonjour tout le monde, ravie d'être ici et merci pour l'invitation.
Alors, pour commencer, est-ce que tu me confirmes que la grossesse est une période de grands bouleversements et qu'il est absolument normal de vivre des chamboulements d'ordre intime également ?
Oui, Oui. La grossesse, le corps qui change, les hormones, le nouveau statut qui va arriver de maman, de parent, bouleverse bah, déjà la personne qui vit la grossesse, mais aussi le couple. Donc effectivement, c'est tout à fait normal et fréquent de passer par différentes questions, différents bouleversements qui peuvent aussi venir impacter bah, la vie relationnelle et la vie intime.
Eh oui, c'est tout un programme. Alors comment on les explique ces changements dans notre sexualité? Bon, j'imagine qu'il y a les hormones qui rentrent en jeu, mais est-ce qu'il y a que ça ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs?
Il y a les hormones, effectivement, mais il y a aussi bah, le rapport à son corps, hein, puisque ce corps va changer, va évoluer. Donc, chaque personne va avoir une manière de vivre ce changement corporel différemment. Donc, effectivement, par exemple, si on ne se sent pas forcément bien dans son corps à ce moment-là, ça peut être aussi difficile d'être en relation intime avec soi et avec son ou sa partenaire. Il y a aussi bah, l'état de la relation, comment ça se passe dans le couple qui se prépare à devenir parent. Est-ce qu'il y a des disputes? Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce qu'on se sent connecté à l'autre? Parce que ça aussi, ça vient changer. Et puis, bah, le facteur aussi un peu stress par rapport à cette nouvelle période. Et aussi des questions des fois qu'on se pose par rapport à la sexualité pendant la grossesse, qui des fois, ben, on a des peurs, on a des craintes de faire mal au bébé, d'avoir une fausse couche, de déclencher un accouchement. Et donc, on se restreint à avoir une vie intime parce qu'on n'a peut-être pas forcément des réponses à nos questions.
Et d'ailleurs, à ce sujet-là, clairement, quand il n'y a pas de contre-indication médicale, le sexe est OK.
Oui, je valide. Sauf contre-indication médicale, vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire, tout ce qui vous fait du bien. C'est plutôt positif et donc ça serait dommage, bah, ce serait dommage de ne pas se permettre d'avoir du plaisir alors que bah, tous les feux sont ouverts.
Exactement. Ça, c'est dit. Je crois qu'il y a pas mal de femmes qui se soucient de leur sexualité, bon, de manière générale, hein, mais encore plus pendant la grossesse. Il y a toujours cette notion de normalité qui finalement ne veut pas dire grand-chose. Est-ce que je suis normale? Est-ce que mes désirs ou mon manque de désirs sont normaux? Il y a ce qu'on pense qu'on devrait vouloir, et puis finalement ce dont on a réellement envie. Des fois, il y a un décalage à ce niveau-là. Selon toi, qu'est-ce qui est vraiment important? Sur quoi il faut se concentrer au-delà de la norme?
Il faut se concentrer d'abord sur ses désirs et ses non-envies aussi, comme tu disais. Il y a effectivement ce qu'on pense qu'on devrait faire, donc entre guillemets, la norme, ce qu'on pense, ce que les autres font, les voisins font, alors qu'on n'en a aucune idée, versus en fait de se concentrer plutôt, ben, en fait, moi, si je me demande là, moi seule, qu'est-ce que j'ai envie? Comment j'ai envie d'expérimenter cette vie intime? Peut-être même que finalement, ma libido, elle est plutôt basse et j'ai peut-être pas forcément envie de rapport intime, ou peut-être pas de la même manière que d'habitude. Donc, c'est important aussi de le communiquer, de le verbaliser avec vos partenaires. Et surtout, on ne se force pas, on ne se force à rien dans la sexualité, déjà de manière générale. Donc, ça, c'est très important aussi.
Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de non-désir, il y a certaines femmes qui n'ont pas du tout envie de sexe pendant la grossesse. Alors, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est inquiétant? Parce que finalement, ça peut être super culpabilisant. Il y a souvent cette vieille idée-là qui traîne, qui dit que même si on n'a pas envie, il faut un peu satisfaire, entre guillemets, le ou la partenaire pour qu'il aille pas voir ailleurs, pour qu'il soit pas bon trop contrarié. Toi, qu'est-ce que tu conseilles de faire dans ce cas de figure vraiment du non-désir?
Ouais. Bah, comme je disais, de ne pas se forcer parce que c'est toxique hein, de penser bah, ok, je vais le faire pour l'autre, pour lui faire plaisir, ou même des fois des professionnels de santé hein, qui peuvent dire bon, bah, allez, il faut se forcer, sinon on met un peu l'épée de Damoclès, il va vous quitter, votre relation va être foutue, et donc ça met une pression énorme. Donc, déjà, ça c'est important d'arriver à se détacher de ce genre de conseils qui sont toxiques. Et donc, bah, quand on n'en a pas envie, moi envie, bah, c'est de respecter ça aussi. On peut très bien avoir des phases dans notre vie où notre libido est plutôt basse. Et donc, c'est important déjà de savoir que ça peut être des périodes comme ça. Après, c'est toujours quand même intéressant d'avoir une réflexion par rapport à sa libido. C'est-à-dire bah, d'essayer de voir, de comprendre, d'avoir une sorte d'introspection sur dire bah, qu'est-ce qui se passe là pour moi qui fait que bah, ma libido a peut-être changé. Et des fois, bah, ça peut s'expliquer parce que j'ai des nausées, parce que j'ai mal au dos, parce que juste j'ai trop de travail ou je suis stressée ou mon conjoint ou ma conjointe n'est pas aussi présent ou présente que j'aimerais. Juste avoir cette réflexion-là, ça peut être intéressant et aussi d'en parler au sein de la relation. Que ce ne soit pas quelque chose de tabou ou quelque chose, même si on se dit c'est une phase et on se dit bon, c'est une phase, on fait un peu l'autruche ou on met un petit peu sous le tapis, juste de pouvoir le nommer au sein de la relation, dire bah voilà, je sens bien qu'en ce moment, ma libido n'est peut-être pas aussi présente que d'habitude. Je peux l'expliquer pour ces différentes raisons. Des fois, on a du mal aussi à l'expliquer, c'est OK. Mais en tout cas, de mettre les mots au sein du couple, ça permet des fois aussi. De faire face à ce qui se passe et de pouvoir en parler, en discuter au sein du couple et de voir comment chacun en fait vit la situation aussi. Ça, c'est super intéressant.
Ouais, complètement. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est des sujets, c'est pas forcément facile à aborder, même avec son partenaire et en parler, ça permet quand même de désamorcer pas mal de trucs. Sur un registre un peu plus sympa, on entend aussi dire que le sexe, et l'orgasme en particulier, est plus intense pendant la grossesse. Mythe ou réalité ?
Ça c'est très subjectif. Hein. Ça dépend des personnes. Ça peut être effectivement une réalité pour certaines femmes pendant la grossesse. D'ailleurs, pour certaines femmes, d'ailleurs, à ce moment-là, ça va être la première fois même qu'elles expérimentent des sensations orgasmiques pendant la grossesse. Ou pour d'autres, ça va être leurs orgasmes vont être beaucoup plus intenses, multiples, etc. Comment on peut l'expliquer ? Moi, mon hypothèse, c'est que justement, pendant la grossesse, on va avoir un afflux de sang vers le bas du corps pour venir donner de l'oxygène au placenta, au bébé. Mais cet afflux de sang, il va venir aussi dans les organes génitaux. Donc, c'est-à-dire que quand on est enceinte, vous pouvez peut-être apercevoir que votre vulve, vos lèvres, votre clitoris, c'est peut-être un peu plus gonflé que d'habitude. Et donc ça, c'est dû à l'afflux de sang, ce qui va rendre aussi, du coup, votre vulve beaucoup plus sensible. Donc, pour certaines personnes, en fait, le fait qu'on va leur toucher cette zone-là, elles vont passer d'un état d'excitation, par exemple, qui était peut-être un peu bas, à soudainement à 100% excitation assez rapidement, ce qui va faire que si l'état d'excitation est assez rapide, l'état orgasmique peut arriver aussi beaucoup plus rapidement et se reproduire plusieurs fois. Et cette sensibilité-là est vraiment différente pour chaque personne parce que des fois, ça peut être trop sensible. Certaines personnes vont se dire « pour moi, c'est vraiment trop sensible et c'est même douloureux qu'on me touche ». Tandis que d'autres, cette sensibilité-là un peu plus accrue va être quelque chose de vraiment orgasmique et satisfaisante.
D'accord, ok. Donc, c'est super intéressant. Finalement, ça a une explication assez rationnelle. Il n'y a pas vraiment de magie de la grossesse, quoi. En échangeant avec certaines femmes également, on m'a déjà confié que la grossesse pouvait amener une sécheresse vaginale qui forcément complique la pénétration et puis doit la rendre désagréable et même douloureuse. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ?
Oui, donc c'est vrai que ça peut arriver puisque pendant la grossesse, il y a des changements hormonaux. On peut voir surtout au troisième trimestre de la sécheresse arriver parce qu'il y a une baisse d'ostrogène. Et donc, si ça arrive, si c'est le cas, on utilise du lubrifiant. C'est tout à fait OK d'utiliser du lubrifiant pendant les rapports intimes avec pénétration, mais même si vous vous caressez en masturbation, vous pouvez utiliser du lubrifiant, des gels hydratants. Et puis, si jamais, vous n'êtes même pas obligé en fait, de passer par la pénétration, si ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse à ce moment-là, parce qu'il y a aussi certaines personnes au moment de la grossesse qui se désintéressent de la pénétration, pas qu'au moment de la grossesse, mais voilà, ça peut arriver aussi. Et donc, il y a mille une façon de faire l'amour. Mais voilà, si jamais vous souhaitez avoir du sexe pénétratif, mettez du lubrifiant avant. Et même des fois pendant le rapport, ça peut être nécessaire d'en rajouter pour éviter ces frictions qui peuvent être douloureuses, effectivement. Quand il y a des frottements et que c'est un petit peu sec, effectivement, ça rend le rapport désagréable, voire douloureux, et on va essayer d'éviter ça.
D'accord. Et juste pour info, est-ce que tous les types de lubrifiants sont OK avec la grossesse ? Ils ne sont pas dangereux, je veux dire ?
Faut regarder les ingrédients. Moi, souvent, ce que je dis, c'est vrai que c'est le plus naturel possible et le mieux parce que, ben voilà, on essaye de faire attention à ce qu'on met sur notre peau, sur nos muqueuses. Donc, en termes de grossesse, après, je ne suis pas non plus experte par rapport à ça, mais je dirais que non. Par contre, ça peut être intéressant pour celles qui sont en conception de faire attention au type de lubrifiant qu'elles utilisent parce que des fois, il y a des lubrifiants qui peuvent changer le pH et donc là, rendre la conception un peu plus difficile. Donc, de ne pas hésiter à aller en pharmacie pour demander des lubrifiants spéciaux conception.
Ok, super. On se l'a dit tout à l'heure, on peut avoir des rapports sexuels pendant toute la grossesse, jusqu'à la fin, sauf en cas particulier, hein, du genre menace d'accouchement prématuré, poche des os fissurées, col ouvert, enfin, voilà, ça, si ça arrive, ça vous est indiqué très clairement de toute façon qu'on ne peut plus avoir de rapports sexuels. Tu confirmes qu'il n'y a pas de danger pour la grossesse ni pour le bébé. Je pense par exemple aux hommes qui pensent qu'ils peuvent causer des dégâts pendant les rapports sexuels, déclencher des fausses couches, des accouchements, faire mal au bébé même.
Ouais, il y a beaucoup de fausses croyances et souvent ça c'est parce qu'il y a un manque d'éducation, même d'éducation sexuelle. Et on peut très facilement rassurer, par exemple, les partenaires par rapport à ça, parce que anatomiquement, c'est impossible, et peu importe la taille du pénis du partenaire, que le pénis vienne heurter, toucher la tête du bébé, parce que il faut savoir que le bébé, il est dans son sac amniotique, qui est dans l'utérus, et puis l'utérus, il est fermé par le col. Et ensuite, en dessous du col, il y a le vagin. Et donc, en fait, bah voilà, c'est hermétique, le pénis ne peut pas toucher, ne peut pas passer et ne peut pas causer de fausses couches non plus. Les fausses couches font partie malheureusement aussi de la grossesse et ce sont des phénomènes naturels. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. C'est des choses qui arrivent, qui peuvent être douloureuses physiquement et psychologiquement, mais ça n'a rien à voir avec la sexualité.
Ok, ben ça c'est très clair. Alors, bon, normalement, on parle uniquement grossesse ici, mais je sais que le sexe en postpartum, c'est un gros sujet, peut-être encore même plus délicat que pendant la grossesse. Alors je voulais avoir un peu ton avis. Le sexe après l'accouchement, on y retourne quand? Comment on sait qu'on est prête? Est-ce qu'on doit vite se remettre en selle, comme on peut l'entendre parfois? Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, ça revient souvent en plus, cette pression, souvent ce que j'entends de la part des femmes, c'est cette pression à revenir au rapport intime, dès qu'il y a le check-up des 6 semaines et la rééducation du périnée, on se dit, bah ça y est, ça doit être normalement, hein, là où tout le monde reprend les rapports, donc ça veut dire qu'il faut que je m'y mette, mais je me sens pas du tout, ou alors mon partenaire, ma partenaire me pressurise par rapport à ça, donc il faut que je le fasse. Donc là, c'est important aussi d'en parler. Souvent déjà, en postpartum et vie intime, on sous-entend souvent la pénétration déjà. Alors qu'avant même de penser à reprendre des rapports avec pénétration, peut-être que ce qui peut vous intéresser, c'est déjà de faire l'amour de mille et une autres façons, c'est-à-dire reprendre progressivement avec des caresses, avec du sexe oral si vous le souhaitez, avec de la masturbation mutuelle, avec des choses qui vous donnent envie. Ensuite, quand vous sentez prête par rapport à justement des rapports avec pénétration, la première question effectivement, c'est de se dire, est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je le fais parce que j'ai une forme de pression, parce que je me dis je dois reprendre, ou est-ce que vraiment je le fais parce que j'ai envie? Et si j'ai envie, mais je me pose aussi quand même des questions, bah, peut-être se dire effectivement quel genre de rapport intime j'ai envie de vivre et qui peuvent être différent de ce que j'ai vécu avant grossesse. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette réflexion, cette introspection et de pouvoir le communiquer au sein de la relation. Ensuite, pour reprendre des rapports avec pénétration, bah, il faut évidemment attendre la cicatrisation de si on a une épisiotomie ou une césarienne. Ça va être important, effectivement. Attendre la fin des lochies, donc des pertes de sang qu'on a après l'accouchement, pour éviter le risque d'infection. Mais là encore, si vous sentez prête avant même que les lochies soient finies, eh ben vous pouvez très bien utiliser des préservatifs, comme ça on évite aussi les infections. Et puis aussi, on oublie souvent, mais évidemment, avant de reprendre des rapports intimes avec pénétration, pensez à la contraception et donc discutez-en au sein du couple si vous ne souhaitez pas avoir des grossesses rapprochées.
Oui, effectivement, on a tendance à se sentir un peu protégé, hein, ça vient de nous arriver et on se dit que ça ne va pas recommencer si vite, mais Ça peut complètement arriver. Justement, tu parlais un petit peu des partenaires qui peuvent être un petit peu pressants, qui nous font sentir qu'ils ont très envie, qu'ils n'en peuvent plus. Comment on peut gérer ce genre de situation sans que ça s'envenime vraiment trop fort ?
Ouais, ça revient souvent. Il faut effectivement en parler au sein de la relation, de voir aussi la manière dont on communique sur ce sujet-là, parce que, comme tu disais, c'est déjà pas évident de parler de sexualité, c'est très tabou, et des fois, quand on en parle au sein de la relation, on se jette les mots un petit peu comme ça, parce qu'on n'est pas à l'aise, pas confortable. Par rapport à un partenaire pressant, là, ça serait plutôt au partenaire d'essayer de comprendre, en fait, déjà dans ce qui se passe pour sa partenaire aussi. Et c'est pour ça que dans mon livre, on pourra peut-être en parler à la fin, mais vraiment, il y a tout un chapitre pour le partenaire, en fait, qui puisse être autonome déjà par rapport à son désir, par rapport à son plaisir, parce que souvent, il y a cette pression-là de « moi, j'ai besoin de faire l'amour, donc je suis un peu dépendant de toi, donc voilà, il faut qu'on ait des rapports intimes ». Et donc là, pour le partenaire, ça va être intéressant qu'il puisse, s'il a des envies, c'est tout à fait OK, qu'il puisse passer par la masturbation sans mettre de pression sur la partenaire. Le pire qui puisse arriver, c'est que la partenaire se force, et donc ça va conduire à un effet vicieux, en fait, de moins la partenaire aura de moins en moins envie, etc. Donc là, c'est important d'en parler à ce moment-là. Et aussi, ce que je constate, c'est que avec l'arrivée d'un bébé, ça vient souvent amplifier des difficultés sexuelles ou des difficultés de communication qui étaient déjà présentes, en fait. Et c'est pour ça que souvent, je recommande aux couples de plutôt pouvoir aborder ces sujets-là, et pourquoi pas en thérapie de couple, pourquoi pas avec des sexologues, avant même la grossesse, pendant la grossesse, pour qu'en fait, en postpartum, la communication soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile.
Oui, complètement. Donc justement, a priori, là, les femmes et les hommes qui nous écoutent, elles sont enceintes ou ils sont dans un projet de bébé, même si je sais qu'il y a des femmes qui ont déjà accouché qui nous écoutent aussi. En tout cas, si vous êtes enceinte en ce moment, n'hésitez pas à lancer ce sujet de discussion avec votre partenaire. Ce sera forcément bénéfique pour la suite. Il y a aussi une question qu'on se pose, une question purement physiologique. Lorsqu'on accouche par voie basse, est-ce qu'après notre vagin sera plus large ? Est-ce qu'il y a des séquelles physiques ? C'est vrai qu'on sort quand même l'équivalent d'une pastèque, donc on peut se poser la question. Ou finalement, est-ce que le vagin se reforme bien et est-ce qu'on retrouve à terme les mêmes sensations qu'avant ?
Ouais, ça c'est souvent une crainte qui revient, ou des personnes qui mentionnent effectivement cette sensation d'avoir le vagin beaucoup plus large. En fait, ces sensations d'être plus large, c'est que le périnée, qui est un ensemble de muscles, de fascia, de ligaments qui vient verrouiller le bassin et qui entoure le vagin, a été étiré, a été distendu pendant l'accouchement par voie basse pour laisser passer bébé. Et donc ce périnée, il a aussi besoin de temps pour se remettre en place. Donc c'est OK, en fait, au début, de sentir un petit peu cette sensation de sentir qu'effectivement c'est un peu large, un peu détendu. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi une rééducation du périnée qui est proposée. Le périnée, c'est un muscle, donc il se retonifie, il se remuscle, il se travaille, et c'est pour ça qu'on insiste souvent sur la rééducation du périnée, d'en prendre soin. Donc même là, pour les personnes qui nous écoutent, qui ont même peut-être déjà accouché il y a quelques années, c'est pas trop tard pour faire de la rééducation du périnée et de pouvoir travailler ça. Puis ça se travaille, en fait, tout au cours de la vie, d'avoir conscience de son périnée. Donc finalement, cette sensation plus large, ça peut se retonifier avec des exercices du périnée, une conscientisation, la rééducation avec des kinés, des sages-femmes, même des fois à la maison, on peut utiliser aussi des boules de geisha pour venir tonifier son périnée. Et donc voilà, de rassurer les personnes par rapport à ça.
D'accord, c'est super intéressant de savoir qu'on peut, même plusieurs années après avoir accouché, encore retonifier cet ensemble de muscles. Et c'est vrai que, pour être honnête, le périnée, sauf si tu as fait médecine, c'est un truc, tu n'en entends pas parler avant d'être enceinte, avant d'accoucher, et tu sais même pas ce que c'est, tu sais pas forcément le sentir, etc. Moi, j'avoue, hein, je continue de travailler mon périnée. Hein. De temps en temps, sur ma chaise, hop, je serre, je fais des exercices, ascenseur, machin. Et voilà, j'essaie de m'y tenir.
C'est chouette, oui. Ça s'entretient et c'est tout au cours de la vie aussi. Et de le conscientiser, de pouvoir en prendre soin, en fait, le périnée, au-delà même de la fonction, parce que ça permet de... Bah, quand on a un périnée qui vient justement, il encercle hein, les orifices du vagin, de l'urètre et de l'anus, donc il nous permet en fait d'éviter l'incontinence urinaire ou fécale, donc c'est vraiment important. Ça nous permet un bon maintien aussi dans notre corps, dans notre bassin. Et puis, bah, ça aide aussi par rapport à la sexualité, à ressentir des sensations, à être à l'aise avec son corps. Donc voilà, c'est un muscle qui est très important pour les femmes, mais aussi les hommes, parce qu'ils ont aussi un périnée.
Ah ouais?
Oui.
Écoute, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il faut s'attendre à retrouver une vie sexuelle comme avant avec notre partenaire? Est-ce qu'elle est impactée? Bah, elle est impactée à court terme, on le sait. Est-ce qu'elle est impactée pour toujours? Comment et à quel moment on peut se préparer à ça? Et à quoi on doit peut-être se préparer finalement?
Super intéressant, parce que ouais, ça c'est une question qui revient le plus souvent. Comment se préparer? Bah, encore une fois, ce que je recommande, c'est de le faire en amont, de ne pas forcément attendre le postpartum pour s'y préparer, parce que souvent, ce que je constate, c'est que les personnes, alors avant même conception, mais même pendant la grossesse, qui ont des informations par rapport à la vie intime en postpartum, d'où le fait que j'ai écrit un livre là-dessus, les personnes qui ont ces informations-là sont beaucoup plus rassurées, ont des outils pour justement rebondir par rapport à cette vie intime en postpartum. Alors, retrouver... J'aime pas vraiment cette formulation parce qu'on a l'impression qu'on a perdu quelque chose. Moi, c'est vraiment, on va réinventer, on va repenser sa sexualité, sa vie intime. Et la différence vraiment entre les couples... qui reprennent, qui ont une vie intime satisfaisante et ceux qui se retrouvent un peu bloqués, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que les couples qui se disent bah, « Ok, on a ces informations-là, on a aussi ce contexte-là où en fait, il faut prendre le paramètre que bah, maintenant on a des enfants, qu'on va être réveillés, qu'ils peuvent venir à tout moment se toquer à la porte, qu'on est fatigué, etc. » On prend ce paramètre-là et on se dit plutôt de se dire bah, « Voilà, notre vie intime est foutue, on a trop d'obstacles. » Ces couples-là vont se dire « Ok, il y a ça, comment on peut faire ?» Ils vont avoir cette flexibilité de se dire comment on peut adapter notre vie intime vis-à-vis de ce contexte, de ce paramètre-là qu'il y a aujourd'hui dans notre vie de couple. Et donc là, on voit vraiment une différence entre ces personnes-là, ces genres de couples-là. C'est aussi des couples qui ont plus de facilité du coup à demander de l'aide, en fait, à être entourés de professionnels ou même à aller voir des sexologues, des thérapeutes de couple pour venir les encadrer, les accompagner dans ces moments-là de vie intime. Et surtout, ils ont une communication aussi au sein de la relation. Ils peuvent avoir des difficultés, hein, c'est comme tout couple, mais ils ne vont pas essayer de mettre ces difficultés sous le tapis ou faire comme si ça va passer au bout d'un moment. Ils y font face, ils reconnaissent qu'il y a ces difficultés-là et qu'ensemble, ils essayent de trouver des solutions. Et c'est la meilleure approche, en fait, pour du coup avoir une vie intime épanouissante, une vie intime qui peut être adaptée à tout événement de vie, qui peut avoir cette flexibilité-là et aussi sentir que bah, on est une équipe, on est ensemble et donc on affronte ça aussi ensemble.
Ouais, mais carrément, je pense que c'est hyper bien résumé. Et puis pour les femmes et les hommes qui nous écoutent, je ne peux que leur conseiller de lire le livre que tu as écrit, Réinventer sa vie intime après bébé, et effectivement se préparer en amont. Donc préparez-vous à tout ça, communiquez à fond dès maintenant. Je vous mets les références du livre de Camille dans la bio, et puis je vous partagerai ça aussi sur mon Instagram. Je te remercie mille fois, Camille, d'avoir discuté avec moi tout ça. C'est vraiment hyper intéressant et là, c'est une mine d'or de réponses. Je pense que ça va être super utile.
Merci, Maud. Et puis, si jamais voilà, les auditrices, les auditeurs ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Et surtout, voilà, vraiment, l'information, d'avoir ces informations-là et d'être rassurée, c'est vraiment la clé. Donc, voilà, il y a le livre Réinventer sa vie intime après bébé. Et puis, il y a la masterclass aussi que je viens de sortir qui s'appelle Grossesse et sexualité. Donc, voilà, vous avez plein d'informations à votre disposition.
Eh bien, parfait. Je te remercie encore et puis je te dis à très bientôt.
Au revoir, merci.
J'espère que ce nouvel épisode de mon podcast vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à noter, commenter si vous le pouvez. Je vous rappelle évidemment aussi que mon livre, La grossesse, toute la vérité, rien que la vérité, est disponible sur mon site www.lagrossesseandré.com. À très bientôt.